Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1970, La logique du vivant, sous-titré Une histoire de l'hérédité, est un essai de François Jacob, biologiste moléculaire et prix Nobel de médecine. Le livre ne propose pas une simple chronologie des découvertes sur la transmission des caractères. Il examine les transformations intellectuelles, expérimentales et techniques qui ont rendu certains objets biologiques observables et pensables. Jacob retrace ainsi le passage des classifications du vivant à la biologie de l'organisation, de l'évolution, de la génétique et de la biologie moléculaire. Son idée directrice est que la science avance lorsque changent les questions, les méthodes et les niveaux auxquels elle découpe son objet, et non par une accumulation linéaire de faits. L'hérédité sert de fil conducteur à cette histoire des sciences, depuis les organismes visibles jusqu'aux molécules. Accessible sans être élémentaire, cet ouvrage associe histoire de la biologie, réflexion épistémologique et exposé des cadres conceptuels de la biologie moderne. Il éclaire aussi les limites de toute explication qui réduirait le vivant à un seul de ses niveaux d'organisation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une histoire des objets biologiques plutôt que des idées isolées. Jacob oppose à une histoire linéaire des théories une enquête sur les conditions qui permettent à un objet de devenir analysable. Une idée ne produit pas à elle seule une science nouvelle. Il faut aussi des instruments, des pratiques expérimentales, un langage conceptuel et des questions capables de faire apparaître un phénomène comme problème scientifique. Cette position structure tout le livre. Au lieu de présenter les précurseurs comme des savants ayant progressivement approché les vérités actuelles, Jacob insiste sur les ruptures qui modifient ce que les biologistes peuvent voir et décrire. Un organisme, un tissu, une cellule, un chromosome ou une molécule ne sont pas seulement des réalités matérielles déjà données. Ils deviennent des objets de savoir lorsqu'un cadre de recherche permet de les isoler, de les comparer et de les relier à des mécanismes. Cette méthode évite le présentisme, c'est-à-dire la tendance à juger les savoirs anciens selon les catégories actuelles. Elle montre également pourquoi des observations disponibles peuvent rester longtemps sans portée théorique. La science ne progresse donc pas seulement grâce à de nouveaux faits, mais grâce à une réorganisation des possibilités de questionnement. Par cette attention aux objets et aux conditions de leur émergence, Jacob fait de l'histoire de la biologie une analyse des transformations du savoir scientifique. Deuxièmement, des structures visibles à la notion moderne d'organisation. La première grande mutation étudiée concerne le recul de la vieille chaîne des êtres et la constitution de l'organisme comme unité organisée. Les classifications de l'âge classique ordonnaient principalement les êtres vivants à partir de caractères visibles. Elles rendaient possible une histoire naturelle attentive aux ressemblances et aux différences. Mais elles ne suffisaient pas à expliquer le rapport entre les parties et les fonctions. Avec l'anatomie comparée et la physiologie, la question se déplace. Il ne suffit plus de nommer les organes ou de distribuer les espèces dans un tableau. Il faut comprendre comment les éléments se coordonnent dans un tout vivant. La notion d'organisation rend alors pensable une relation interne entre structure et fonction. Elle contribue aussi à distinguer nettement les êtres vivants des objets inertes, sans recourir nécessairement à une force vitale séparée des processus matériels. Jacob analyse ce déplacement comme une modification profonde du regard biologique. L'organisme devient un système dont les parties prennent sens par leurs relations. Cette perspective prépare les recherches ultérieures sur la cellule, le développement et la régulation. Elle rappelle surtout qu'une explication biologique ne réside ni dans une simple description des formes, ni dans une addition de composants. Elle doit identifier une organisation avec ses dépendances et ses contraintes propres. Troisièmement, le temps évolutif transforme la compréhension de l'individu. La théorie de l'évolution introduit une autre rupture décisive en donnant au temps une fonction explicative dans les sciences du vivant. Avant ce déplacement, les espèces pouvaient être envisagées comme des formes stables dont il convenait de décrire l'ordre ou l'organisation. Avec Darwin, la variation, la descendance et la sélection naturelle conduisent à penser les formes vivantes comme les produits d'une histoire. Jacob souligne les conséquences de ce changement pour le statut de l'individu. Celui-ci ne peut plus être tenu pour le centre immobile de l'explication biologique. Les variations se produisent entre individus, mais leurs effets s'inscrivent dans les populations et dans la longue durée des générations. L'évolution oblige ainsi à articuler hasard des variations, reproduction et contraintes de sélection, plutôt qu'à chercher un plan finalisé dans chaque organisme. Cette historicisation ne remplace pas les explications anatomiques ou physiologiques. Elle leur ajoute un niveau irréductible, celui des transformations des populations au cours du temps. Le livre met en évidence que les catégories de l'histoire et celles de la biologie deviennent alors étroitement liées. Comprendre une structure vivante exige à la fois de décrire son fonctionnement présent et de considérer les processus qui ont rendu cette structure possible. La biologie moderne se définit dès lors par cette double logique de l'organisation et de l'évolution. Quatrièmement, gènes, chromosomes et probabilité dans la refonte de l'hérédité. Le développement de la génétique mendélienne fait passer l'hérédité du registre des ressemblances globales entre parents et descendants à celui de caractère transmissible et combinable. Jacob montre que cette nouvelle approche ne découle pas mécaniquement de l'observation de la reproduction. Elle suppose une manière de décomposer le vivant en unités de transmission et de traiter leurs combinaisons selon des régularités probabilistes. Les chromosomes fournissent un support matériel à cette analyse, tandis que les lois de Mendel donnent une forme calculable aux distributions des caractères. Cette étape redéfinit l'individu comme le résultat provisoire de combinaisons héréditaires, et non comme une entité dont les qualités se transmettraient en bloc. Elle rend aussi intelligible la différence entre la permanence relative de certains traits et la diversité produite par la reproduction sexuée. Jacob relie ce changement à l'importance croissante de la pensée statistique dans la science moderne. Les lois biologiques ne décrivent pas toujours le destin nécessaire de chaque cas singulier. Elles peuvent porter sur les fréquences, les distributions et les possibilités de variation au teint des populations. La génétique ne supprime donc pas le hasard, mais elle lui attribue un cadre de fonctionnement déterminé. Cette analyse explique pourquoi l'hérédité devient un problème central pour relier reproduction, variation et évolution. En dernier lieu, la molécule et les paliers irréductibles du vivant, la biologie moléculaire constitue le point d'arrivée historique du livre, notamment avec la place accordée à l'ADN et au programme génétique. Jacob ne présente pourtant pas la molécule comme la clé unique qui dissoudrait tous les autres objets de la biologie. L'analyse moléculaire permet de préciser les mécanismes de l'hérédité et de la régulation, mais elle ne rend pas inutiles les niveaux de la cellule, de l'organisme, de la population ou des systèmes sociaux. Le vivant est conçu comme une série de paliers d'intégration. Chaque palier organise les éléments du niveau inférieur selon des relations nouvelles et produit des propriétés qui ne se laissent pas déduire directement de la seule étude des composants. Cette thèse protège le livre contre un réductionnisme simplificateur. Elle reconnaît la puissance explicative de la biologie moléculaire, tout en rappelant que ses concepts et ses méthodes ne se transfèrent pas sans précaution à tous les domaines. La notion finale d'intégron élargit cette réflexion aux ensembles organisés par des codes culturels, sociaux ou politiques. Jacob refuse ainsi de réduire les phénomènes humains à des analogies biologiques faciles. Le passage entre niveaux exige des outils adaptés à chaque objet. La logique du vivant est donc à la fois moléculaire, organisationnelle et historique, sans qu'un vocabulaire unique puisse épuiser cette pluralité. En conclusion, la logique du vivant convient aux lecteurs de biologie qui souhaitent comprendre la formation historique de leur discipline, mais aussi aux étudiants, enseignants, historiens des sciences et philosophes intéressés par les conditions du progrès scientifique. Il peut être lu avec profit par un public non spécialiste, à condition de rechercher moins un manuel actualisé de génétique qu'une architecture intellectuelle permettant de situer les concepts biologiques. Son principal bénéfice est de rendre plus précise la manière de parler de découverte. Une découverte ne consiste pas seulement à révéler un fait caché, elle transforme souvent les objets, les méthodes et les questions qui organisent un champ de recherche. Cette leçon reste utile pour aborder les débats contemporains sur les gènes, le réductionnisme et les rapports entre biologie et sciences humaines, par rapport à une histoire classique de la biologie centrée sur une succession de savants et de résultats. Le livre se distingue par son attention aux ruptures de perspective et au niveau d'organisation. Par rapport à un essai strictement philosophique, il conserve un ancrage ferme dans les problèmes de l'hérédité, de la reproduction, de l'évolution et de la biologie moléculaire. La position de Jacob est également singulière, il valorise la puissance des explications moléculaires sans les convertir en modèle universel. Cette alliance entre savoir scientifique, histoire conceptuelle et vigilance contre les extrapolations abusives explique la place durable de cet essai parmi les grandes réflexions sur les sciences du vivant. Si vous souhaitez soutenir François Jacob 1920-2013, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.